marathon.
Oui, présent.
Présent. Alors Alain, on va dans un jardin, mais c'est plutôt les fleurs, votre jardin en fait, c'est votre jardin monumental. Les fleurs qui ont souvent inspiré, pour vous, les grands écrivains.
Eh oui, il est ainsi possible d'évoquer Baudelaire et les fleurs du mal, Proust et les jeunes filles en fleurs, le nom de la rose d'Umberto Eco, la dame aux camélias d'Alexandre Dumas, fils, ou encore le lys dans la vallée d'Honoré de Balzac. Les fleurs ont aussi inspiré les poètes et l'une des œuvres les plus connues et sans conteste, Mignonne. Allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, etc., etc.
Il y a aussi le célébrissime, et moi j'adore, hein, c'est le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud.
C'est magnifique avec ce passage extraordinaire. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce le chaudement et la froid.
Ouais, c'est magnifique, mais c'est triste.
Et oui, tout est une question de choix. Dans le végétal, les roses, les pâquerettes ou les coquelicots sont réservés aux romantiques. Les tulipes,
oui.
Eh oui, vous remarquerez, oui, les pieds dans les coquelicots, il dort. Ça n'a pas du tout la même notion que les pieds dans les glaïeuls. Les glaïeuls, ça donne tout de suite de la force. Tout comme les roses, les pâquerettes et les coquelicots, donc si elles sont réservées aux romantiques, les tulipes, généralement, sont réservées aux aventuriers. Fanfan la tulipe ou la tulipe noire.
Il y a une fleur qui intéresse tout particulièrement James Hedley Chase.
Eh oui, l'homme que nous connaissons, qui est né en 1906 à Londres, est réputé pour des polars d'exception comme Pas d'orchidée pour Miss Blandiche, publié en 1936, suivi quelques années plus tard par La chair de l'orchidée, un récit qui a pour trame l'enlèvement d'une femme.
Il y a des romans aussi qui ne sont pas sans rappeler la tragique histoire survenue à une sportive il y a quelques jours.
Eh bien celui-là justement, il y a une histoire qui commence comme formelle et qui se termine heureusement beaucoup, beaucoup mieux. Nathalie est une athlète autrichienne âgée de 27 ans. Elle est cycliste professionnelle. Alors qu'elle s'entraîne sur son vélo, elle est violemment heurtée par une voiture et elle se casse un bras en tombant.
Et là, c'est le début du cauchemar, j'imagine.
D'un vrai cauchemar. Le conducteur sort de son véhicule et assomme la malheureuse qui se réveille nue et ligotée dans une maison isolée. Elle déclare ensuite dans un quotidien autrichien, c'était il y a quelques jours seulement, hein, que son ravisseur a tenté de lui faire boire de l'alcool, de l'étouffer. Il a même essayé de la noyer dans la baignoire. Elle arrive toutefois, cette femme a vraiment du courage, à engager la discussion sur les orchidées présentes en nombre autour d'elle. L'homme, à n'en pas douter, est orchidophiliste. Il les collectionne. Elle lui parle fleurs, il lui répond jardin. Et la discussion est pour l'individu si inattendue qu'il accepte de la ramener chez elle. Elle est sauvée, il sera arrêté.
Comme quoi les fleurs adoucissent les mœurs.
Eh ben oui, de temps en temps. Mais c'est une histoire incroyable, vraie, qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. Comme quoi, de temps en temps, parler le langage des fleurs peut vous sauver la vie.
Alain Baraton, les questions des auditeurs avec celle de Jérôme, à laquelle je m'associe. J'ai planté une clématite, mais elle ne pousse pas beaucoup. Pourquoi ?
Il y a quantité de raisons qui limitent la croissance des clématites. Les clématites, j'en profite pour rappeler, ce sont ces plantes grimpantes merveilleusement belles. Certaines sont des petites fleurs, d'autres produisent de grosses fleurs. Elles ont deux particularités. La première, quand on les plante, elles ont besoin, juste après la plantation, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Quand vous plantez une clématite, dans les semaines qui suivent, toutes les semaines, 10 litres d'eau minimum.
10 litres
d'eau, oui, oui, oui. Après, la clématite est capable de supporter les périodes de sécheresse, mais au début, elle a besoin de beaucoup d'eau. Et puis, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup. C'était une des phrases de Michaelis, vous vous rappelez certainement,
oui.
De Michaelis qui officiait ici même il y a longtemps, et qui disait que pour qu'une orchidée soit heureuse, il lui faut la tête au soleil, mais le pied à l'ombre.
Donc on met une tuile ou un truc comme ça.
On met une tuile, on plante une lavande au pied, on met quelque chose. Mais quand vous avez planté une clématite en lui mettant vraiment le pied à l'ombre, la tête au soleil, quand vous l'avez arrosé copieusement, que vous savez que la taille des clématites se distingue en fonction de la grosseur de leurs fleurs, quand on sait que lorsqu'il y a une maladie qui est un champignon redoutable, il faut avant d'en replanter une clématite, remplacer la terre, on a tout compris. Les clématites sont des fleurs merveilleuses. Je comprends votre attachement à cette grimpante. Mon grand-père, pour ne rien vous cacher, avait devant sa maison une pergola qui était recouverte de la clématite Nelly Moser. C'est resté dans mes souvenirs d'enfant la plus belle plante du monde, cette clématite rose, rose et blanche, merveilleuse. C'est une fleur sublime.
Mais qui met du temps à pousser, hein.
Oui, parce qu'il faut qu'elle pousse dans de bonnes conditions, il faut que la terre lui convienne.
Est-ce qu'on peut dire plusieurs saisons?
Non, le problème de la clématite, c'est une plante qui n'est pas capricieuse, mais qui a quelques exigences. À partir du moment où la terre lui convient, à partir du moment où elle ne manque ni de nourriture ni d'eau, elle va se développer à une vitesse, je dirais, soutenue. Pour peu qu'elle soit contrariée dans sa croissance, elle peut mettre beaucoup de temps et elle peut même ne jamais vraiment se développer. Donc ce qui est important, c'est de respecter les besoins de la clématite dans la structure du sol. Il y a une grande diversité de clématites. On peut parler de la ville de Lyon, on peut parler de la Montana, on peut parler de la Nelly. Quand vous achetez les clématites, il y a toujours une petite fiche. Regardez bien si la plante aime ou préfère les terres légères, argileuses ou un peu sablonneuses. Quelles sont ses exigences au niveau de l'ensoleillement. Respectez les conseils des professionnels et vous ne serez jamais déçus.
Louise, à cette question, j'ai malheureusement renversé un pot de peinture. Oui, c'est malheureux sur mes arbustes. Alors quoi faire?
C'est malin. C'est malin. Arroser, Louise, arroser,
Alain,
arroser.
Pas content.
Bien entendu, s'il y a de la terre, de la peinture qui est encore visible, on évacue la peinture et la terre, bien entendu. Et ensuite, on essaie au moins de dissoudre au maximum pour éviter que les plantes n'en souffrent. Dans la peinture, il y a quantité d'éléments qui risquent de faire mourir la plante.
On dissout avec quoi?
Eh ben, déjà, on ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Mais quand le mal est fait que la peinture a vraiment pénétré la terre et qu'on ne peut plus la retirer, eh ben, avec de l'eau, tout simplement, on arrose beaucoup pour tenter. Pardonnez-moi, on va pas le perdre. Non, c'est l'émotion de vous voir aujourd'hui.
Je comprends.
On arrose beaucoup.
On arrose beaucoup. Manon, je ne sais que je n'ai pas le droit de prélever des arbres en forêt, mais ai-je le droit d'en planter?
Non, on n'a pas le droit. Mais il est évident que si vous
avez... Comment ça, on n'a pas le droit de planter d'arbres?
On plante chez soi.
Ah oui, chez soi, oui,
mais d'accord. La forêt ne vous appartient pas. La forêt, soit elle appartient.
Oui, non, on plante pas en forêt, mais dans son jardin, on peut planter.
Non, mais là, on parle d'une forêt.
D'accord.
Bah bien sûr.
J'imagine. Hein.
Bah oui, logique. Si on n'a pas, voilà, c'était l'objet de la question. Voilà, si quelqu'un écrit ici même à Inter, a-t-on le droit de planter dans son jardin? La réponse, elle est oui. J'en suis certain. A-t-on le droit de prélever les arbres dans les forêts? La réponse est non, je l'affirme. A-t-on le droit de planter dans une forêt si elle ne vous appartient pas? La réponse est non, bien entendu. On ne plante que chez soi. Mais il est exact que si vous avez un petit chêne, que discrètement vous allez le mettre dans les bois, vous ne dites rien, vous n'aurez pas de soucis.
Rapide, Richard, est-ce le bon moment pour semer de la mâche?
On attend encore un petit peu, mais on peut. La mâche, on la sème simplement, on tasse un petit peu, on arrose, et c'est une petite merveille à déguster ensuite.
Merci Alain Baraton. Un petit conseil?
Un livre, vraiment, je suis tombé amoureux de ce livre. Arbres et arbustes en campagne de David Della, préfacé par Francis Allais, et les textes sont de Bruno Sirven. Cet homme dessine les végétaux, les arbres, d'une manière extraordinaire. On voit les plantes telles qu'on les voit jamais. C'est sublissime et c'est publié chez Actes Sud.
Merci, tout est dit. C'était La Main Verte. Merci Alain Baraton et à la semaine prochaine, 7h50.